Ok, et ben merci beaucoup Marie, et on passe tout de suite à au billet d'ailleurs avec Nicolas. Et tu nous emmènes où Nicolas ce soir ?
Mais je vous emmène en même temps ailleurs, mais ici un peu partout. En vérité, non, je vais parler du conflit entre les États-Unis et l'Iran, et je vais commencer avec la date d'aujourd'hui. 16 janvier 2020, premier JIRA de la décennie. Nous sommes tous fin prêts à vous relayer une actualité égalisée, amplifiée, sans aucun différé, du travail acharné. Et oui, on m'appelle le Riemayeur. Je déconne. C'est vrai qu'on continuera à relayer l'actualité aussi longtemps que l'actualité existera, mais qui sait ? Peut-être que d'ici l'été prochain, nous serons tous envoyés en Iran, en bande, pour combattre aux côtés de l'OTAN. Si, je l'ai lu sur Twitter la semaine dernière, c'est apparemment la troisième guerre mondiale, et personne n'est épargné. Bon. La vraie histoire commence le 3 janvier, jour de la frappe ciblée états-unienne lors d'un raid aérien sur l'aéroport de Bagdad contre Rassim Soleimani, un commandant des opérations militaires extérieures du régime iranien, provoquant une escalade sensible dans les tensions entre les deux dictatures, puissances. Même si, depuis, Téhéran et Washington jouent la carte de l'apaisement pour éviter un conflit armé de plus grande ampleur, ce que craignent les spécialistes du Moyen-Orient, c'est surtout que les deux camps canalisent cette tension géopolitique vers des territoires environnants, créant une situation de l'ordre de la guerre par procuration, maintes fois vue durant la guerre froide. La ligne rouge a été franchie, et cette attaque complètement disproportionnée de Washington a un effet rassembleur en Iran, explique Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auprès de France Info. Désormais, des groupes de différentes sensibilités font front commun face à l'ennemi américain. La logique de riposte est en cours, via les milices chiites, par exemple, à l'extérieur du territoire iranien. En Irak, Moqtada el-Sadr a réactivé l'armée du Mahdi. Les milices chiites, dont certaines sont en sommeil, sont une façon en fait pour l'Iran de riposter. Au-delà de cette influence régionale, cette crise peut aussi réveiller les clivages de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien avec l'intervention d'autres puissances, explique Amélie Chelli, spécialiste du chiisme au CNRS. Bref, si l'Iran sait qu'elle ne fait pas le poids dans le cadre d'un conflit militaire direct avec les États-Unis, leur présence est partout dans la région, en Irak, au Yémen, dans le détroit d'Ormuz, qui se trouve entre le golfe d'Oman et le golfe Persique. Finalement, on se rend bien compte que même si Téhéran n'a absolument pas l'intention d'attaquer frontalement les USA sur leur territoire et de provoquer une guerre qu'elle n'a aucune chance de gagner, et de toute façon les liens commerciaux et diplomatiques indirects entre l'Iran et les États-Unis sont bien trop nombreux, le conflit continuera à se développer aux marges de leur territoire, se focalisant sur des cibles plutôt symboliques mais toujours périphériques. On risque en somme d'assister à la démultiplication d'événements qui seront décrits comme fortuits par les gouvernements impliqués, comme par exemple mercredi 8 janvier où l'on apprend que l'Iran aurait abattu par erreur, oui je cite par erreur, un Boeing 737 d'Ukraine Airlines avec un missile soviétique, oui soviétique, près de Téhéran, un crash qui a coûté la vie à 176 personnes. Bon, pas de morale particulière pour cette histoire, à part peut-être que ces temps-ci, il ne fait pas vraiment bon de prendre un vol Téhéran-Kiev ou d'habiter dans un centre-ville à moins de 1000 km de l'Iran ou d'être un lycéen états-unien ne sachant pas trop quoi faire de sa vie qui ne sait pas qu'il croisera un recruteur de la marine juste assez convaincant là, au coin de ce couloir, entre deux cours. Même si c'était pas leur guerre, comme dirait Rambo.
Belle conclusion. Merci.